Bienvenue sur notre podcast Match après match.
Votre rendez-vous du dimanche soir après la Super League, c'est Match après match, c'est votre talk 100% foot. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur Blue Zoom, bienvenue sur YouTube. Salut à ceux qui nous écoutent en podcast à partir de tous les lundis matin. Voici le programme de ce dimanche 3 mai 2026. Le FC Thun est champion suisse après avoir été promu il y a un an. Est-ce que c'est le plus grand exploit de l'histoire de notre championnat? On se demandera aussi que faire avec ça, qu'est-ce que ça signifie pour le foot suisse et qu'est-ce qui attend le FC Thun au coin de la rue à partir de demain. On reviendra aussi forcément sur le match de l'année, l'Ode au football, l'œuvre d'art entre Paris et le Bayern, mais aussi sur la défaite du Lausanne Sport contre le FC Lucerne. C'était samedi soir et ça tombe bien puisque Théo Bert est avec nous. Salut Théo, bienvenue à toi.
Merci beaucoup.
La dernière fois qu'on s'est croisé et que tu as été aussi proche de moi, je t'ai eu à l'interview, tu t'es blessé 3 jours plus tard pour très très longtemps. Je te propose qu'on touche du bois ensemble. C'est très très important, d'accord, pour que ça ne se reproduise pas. Bienvenue à toi dans la grande famille de Match après Match, c'est un plaisir de t'avoir.
Merci, ça me fait plaisir d'être ici.
Plaisir partagé. En face de toi, un ancien défenseur du Lausanne Sport, Jérémy Manière, un peu plus chill ce soir parce que tu étais là mardi pour ce big match entre le Bayern et le PSG. Là, on est plus détendu, hein, je pense.
Ouais, j'ai eu le temps de redescendre, de me remettre de mes émotions. Et c'est vrai que ça a été long, hein, beaucoup plus long que d'habitude parce que le match a été exceptionnel. C'est le genre de match où on n'a pas le droit d'aller pisser parce qu'on sait qu'on va rater quelque chose. Et même le lendemain, la dose d'adrénaline était tellement haute que c'était compliqué à gérer. J'ai de la peine à me concentrer sur mon autre job ce jour-là, mais c'était incroyable.
Ouais, on a trouvé tout ça assez formidable. Je vous ai sorti quelques coupures de presse, les principaux titres des gros journaux sportifs dans toutes les langues. Je vous les propose juste ici. On a à peu près toutes sortes de mots. On a du merci, on a la folie, on a de l'ode au football, on a meilleur match de l'histoire, on a football total. Est-ce que l'UEFA est en train de gagner son pari avec cette formule, Jérém? Pour rappel, il y a eu les 13 buts aussi en demi-finale la saison dernière entre le Barça et l'Inter. On a eu cette saison la double confrontation entre City et le Real. On a eu Bayern-Real aussi, et puis le but de Trubin en fin de match contre le Real avec Benfica. C'est un beau pari qu'ils sont en train de réussir, là.
Oui, après, fondamentalement, les phases d'élimination directe, elles n'ont pas changé. C'est surtout la phase préliminaire entre septembre et puis maintenant fin janvier qui est un petit peu différente avec cette phase de Ligue un peu à rallonge. Par contre, ce qui est vrai, c'est que depuis 3 ans, J'ai l'impression que la Champions League, elle est encore montée d'un cran. Et chaque année, il y a vraiment des matchs exceptionnels à se mettre sous la dent. Et là, en fait, le match qu'on a vécu mardi, si on accepte le fait que c'était un match aller et puis donc le coup près n'était pas actionné ce mardi-là, mais c'est du niveau, sur les 10 dernières années, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont procuré autant d'émotions que ça.
Ouais, Théo, t'es attaquant. Nous, on a tous vu le même match, ça allait tellement vite, il y avait tellement de qualité devant que j'avais de la peine à être d'accord avec les gens qui disaient que défensivement, ce match a été catastrophique. Parce qu'en fait, comment on défend aujourd'hui sur Luis Diaz? Comment on défend sur Olysée? Comment on défend sur Dembélé? Comment on défend sur Doué, etc., etc.?
Je pense que c'est très, très difficile, en fait. Il y avait plein de situations, même qui ont été bien défendues. Mais à la fin, quand tu as tellement de qualité, les buts vont rentrer éventuellement.
Ouais, absolument. Je vous ai mis aussi, évidemment, à vous, hein, votre avis sur ces matchs. On va les voir dans quelques instants. D'abord, on se régale, on se fait plaisir avec ces images-là. Comment vous imaginez le match retour? Parce que ça a été tellement intense, ce match-là. C'est le match parfait. Enfin, on est passé par toutes les émotions. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être, à ton avis, un peu plus de calcul pour le match retour, ou on va se régaler encore une fois comme ça?
Je pense qu'on va se régaler encore. Je pense que les deux équipes ne savent pas jouer différemment. Donc ça va être vraiment un match bout à bout encore.
Je suis assez d'accord avec Théo. Je pense que même Luis Enrique l'a dit en conférence d'après-match. Il a discuté avec son staff et il disait qu'il faudrait quasiment minimum 3 buts d'inscrits du côté parisien pour pouvoir passer l'écueil Bayern. Bayern va vouloir montrer sa supériorité à domicile. C'est une équipe qui veut gagner aussi. Je ne peux pas garantir à nos téléspectateurs qu'on va assister à 9 buts mercredi. Par contre, j'imagine qu'il y aura aussi pas mal de buts. Et je pense que ça va être compliqué pour le PSG de défendre sur les 15 premières minutes les assauts bavarois parce qu'ils savent mettre la pression devant leur public.
Ouais, c'est ça. Enfin, pour y être allé dans ce stade, dans cette Allianz Arena, ça respire le foot, ça pue le foot et ça met quand même une vraie grosse pression. Je me suis souvent demandé depuis mardi soir si finalement, ces buts d'avance pour le PSG n'auraient pas dû être gérés différemment.
Je pense que, comme l'a dit Théo, ils ne savent pas calculer. Donc d'une part, calculer, mettre le bus alors qu'ils gagnent 5-2, ils ne l'ont jamais fait, ils ne vont pas le faire. Et il faut aussi relever le mérite du Bayern qui a à l'extérieur a réussi à remonter la pente, à montrer aussi que offensivement ils sont capables de à chaque voyage quasiment de faire des différences. Donc moi je crois plutôt que le 5-2 aurait été très flatteur pour Paris vu le match, et je crois que le 5-4 on peut vivre avec, ça aurait pu être match nul, le Bayern aurait pu l'emporter aussi, mais je trouve que on parle de cet avantage d'un but pour Paris, mais c'est la première fois quasiment que je me dis, bon, c'est anecdotique. Un but d'avantage pour Paris avant d'aller jouer à Munich, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant non plus, alors que mon cœur aurait tendance à plutôt pencher côté parisien, si je suis tout à fait honnête.
Allez, je vous les mets, hein, les mots que vous avez choisis. Je vous ai demandé de qualifier ce match en un seul mot. Certains y sont parvenus, d'autres ont eu besoin de quelques mots de plus. Et pendant que vous les lisez, Théo, moi, ce que je voulais te demander, c'est que on n'aura pas Achraf Hakimi au match retour, blessé. Peut-être qu'on n'aura pas Davis non plus, ton coéquipier, grand ami à toi. D'ailleurs, tu le connais depuis votre enfance, votre adolescence. Il va vraiment aussi vite en vrai que quand on le voit à la télé.
C'est le mec le plus vite au monde, je pense, à l'entraînement. Je peux pas l'attraper, moi. Et moi, je vais assez vite. Donc, il est trop, trop, trop rapide.
C'est vrai, il y a une question pour toi de Cal44N sur Instagram qui souhaite savoir qui passe le plus souvent entre Davis et toi en 1 contre 1.
Moi, je suis beaucoup plus fort que lui. Donc, moi, je vais dire moi. Mais lui, il va dire oui parce qu'il va vite.
Non, on l'appelle pour lui demander son
numéro. Ouais,
allez,
en plus,
allez, t'as forcément son numéro. C'est quand même un joueur qui est relativement souvent blessé. Et c'est dommage parce qu'en fait, on aimerait en profiter tellement plus et tellement plus souvent et tellement plus longtemps.
Oui, je pense que quand tu as une blessure comme ça qui dure tellement longtemps et tu as un joueur qui est aussi puissant, c'est dur d'éviter les petites blessures parfois. Mais je pense que là, il va se remettre en forme et tu vas voir le mieux de lui.
Ouais. Y a d'autres joueurs que tu côtoies souvent dans cette sélection canadienne et les questions arrivent. Flavio te demande quelle qualité tu volerais à Buchanan, qui a marqué d'ailleurs hier avec Villarreal, et à Iceman, autrement dit Jonathan David.
T'as dit quelle qualité est-ce que je prendrais?
Que tu leur volerais, t'as un pouvoir spécial et tu peux aller leur prendre.
Et Buchanan, il va très très vite aussi, donc peut-être sa rapidité. Et Jonathan David. C'est vraiment le calme qu'il a. Le cerveau, je pense, il est très très intelligent comme joueur.
C'est pas la Panenka.
Allez,
le maillot de Théo Bert de la sélection canadienne a gagné. Il est venu avec ce maillot-là à partir de demain sur les réseaux sociaux. Soyez bien attentifs. On donne les indices dans cette émission. Tu comptes 7 sélections avec le Canada. Tes dernières convocations, c'était en automne 2025 contre le Pays de Galles et contre l'Équateur. Mm-hmm. On te demande dans le chat si tu penses mériter d'aller à la Coupe du Monde. Alors, je vais te la poser différemment. Est-ce que tu penses aller à la Coupe du Monde? Je trouve la question un peu vache comme ça.
Je vais juste dire que je veux et je vais tout faire pour y être. C'est difficile à dire si je le mérite ou non, mais je veux aller. C'est une grande fierté pour moi et j'ai bossé pour ça. C'est ça que j'ai bossé pour ce moment-là.
Ouais, je me souviens lors de cette fameuse interview qu'on a eue les deux, tu me disais exactement la même chose. C'était au mois de janvier. Bravo pour ta saison, te dit Antoine Lucci. Quel est ton niveau d'excitation pour ce mondial à domicile?
Ah, c'est un truc de rêve. J'ai même regardé dans les photos de mon téléphone. J'ai parti de peut-être, je sais pas quand c'était annoncé, mais j'ai vu une photo très très ancienne de 2026 Coupe du Monde au Canada et j'ai dit ben je rêvais là et là je rêve maintenant parce que je suis proche comme ça, donc ça c'est tellement excitant pour moi.
Ouais, cette Coupe du Monde c'est demain hein, pratiquement. Est-ce que tu oseras marquer contre la Suisse si tu y vas? C'est une question Instagram.
Quelle question.
C'est ça que je veux.
C'est ça que tu veux. Hein.
Je vais glisser sur les genoux comme ça.
Logique.
En 2018, tu sais, il y a un autre joueur du Lausanne Sport qui a joué la Coupe du Monde avec le Costa Rica. Tu le connais bien, évidemment, Jacinto Tereda. Il y a eu 2-2, 2-1 de Dermich à la 88e minute. Mm-hmm. Tu te souviens ensuite? Le 2-2. Autogol de Yann Sommer.
Ah, ça, je ne l'avais pas en tête. Par contre, c'est vrai qu'Yeltsin, il a fait 3 Coupes du Monde. Ouais. Et c'est... Il y a peu de joueurs en Super League à l'époque qui avaient déjà 3 Coupes du Monde à leur actif.
Ouais. C'est vrai, absolument. Absolument. Théo, t'es de retour depuis le mois de mars après cette blessure à la cheville. Je l'ai noté en 4 syllabes, hein, ta blessure. Rupture du ligament syndesmotique. Voilà. C'est une sorte d'entorse, lésion des ligaments qui unit le tibia et le péroné à cause des douleurs et d'un gonflement, c'est ça? Ça avait gonflé, c'est ça?
Ah, ça gonfle un peu, ouais, quand même. Et c'est quand même gonflé un peu parce que là, quand tu fais la récupération, les ligaments, ça grandit naturellement. Donc, ouais, c'est un peu une blessure bizarre parce que tu l'utilises tout le temps. Tu as toujours la cheville qui fait un peu mal, donc c'est dur.
Blessure pendant un match de préparation, un match amical contre Neuchâtel-Xamax. La page Insta Fan du LS te demande si elle t'a fait perdre ton niveau, cette blessure, en vue justement de cette Coupe du Monde.
Ouais, je ne veux pas dire perdre de niveau, mais ça prend un peu de temps de te remettre dans ton niveau, c'est sûr. Parce que, comme j'ai dit, cheville, tu l'utilises tout le temps. Et comme je suis lourd, déjà ça prend un peu de place aussi.
Question de Johan Janton. Est-ce que tu es un homme de vestiaire? Est-ce que tu dis les choses quand ça va mal?
Moi, je n'aime pas trop parler. J'aime mieux montrer sur le terrain. Oui, parfois, je veux dire ce que j'ai à dire, mais... J'aime plus montrer sur le terrain que j'ai des trucs à donner.
Jérém, toi, t'étais un mec qui parlait dans le vestiaire ou t'étais plutôt ce style-là?
Non, moi, je suis assez bavard de manière générale. Donc, je parlais dans le vestiaire, mais je suis d'accord avec la... J'étais pas un homme des grands discours d'avant-match parce que je trouve que si tu fais un grand discours pendant 5 minutes et puis que si t'es une pipe sur le terrain après, ça sert à rien. Je préfère être très vocal sur le terrain de ma position de 6 ou bien défenseur central, dirigé, replacé, encouragé. Et là, c'était plus là que j'étais vocal. Par contre, les grands discours, j'en ai connu. Hein, des joueurs qui faisaient des énormes discours, qui les préparaient. Et puis par contre, ça se désagrégeait sur le terrain après. Au final, t'es pas très crédible. Donc, j'aimais bien, durant la semaine, parler dans le vestiaire. Mais par contre, c'était sur le terrain que j'étais encore plus bavard, disons ça comme ça.
Je propose à Daniel Burkhalter, qui est aux manettes de l'émission, de me glisser les questions qui arrivent sur YouTube parce que je les vois pas pour l'instant. Dès qu'il y a une question intéressante, t'hésites pas à me la fournir dans l'oreillette. On te demande ce que tu penses de la mentalité en Suisse. On a souvent cette conversation avec les joueurs étrangers. Qu'est-ce qui les surprend? Qu'est-ce qui leur plaît en Suisse? Qu'est-ce qui les surprend?
Non, mais c'est un pays très sympa, premièrement. J'adore la Suisse. J'ai vécu beaucoup de très, très belles moments ici. Mais j'ai venu d'Écosse et de la France. Et c'est un peu différent quand même. Les supporters là-bas sont un peu plus fous, on dirait. C'est ça qui m'a surpris un peu. Oui, il y a des bons supporters ici, mais c'est un peu différent quand même.
Le prix des cafés au centre-ville de Lausanne, ça va? Ça t'a pas trop choqué?
Les 15 francs que je fais là-dedans.
T'as déjà testé à Zurich?
Lausanne, on est gentil.
Lausanne,
encore,
ça va.
Ouais, c'est ça.
Zurich, c'est next level, par
contre. Ouais, 27 à Zurich.
Une salade, 27 francs à midi. Ouais.
Voilà, ça sent le vécu, effectivement. Oui, oui, oui. On va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça parce qu'il y a une chose qui m'a intéressé dans ce que tu as dit. Tu as parlé de l'Écosse et je crois qu'il y a vraiment une anecdote que j'aimerais beaucoup que tu nous racontes, surtout parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent match après match, qui sont très fidèles, qui posent beaucoup de questions. J'aimerais qu'en fait, toi aussi, par ton passage, tu leur expliques que le foot, ce n'est pas seulement une belle carrière toute lisse jusque tout en haut.
Ouais, ben à 22, j'ai parti en Écosse, à St. Johnson, et... J'ai rentré dans le vestiaire et ils ont pris une chaise en plastique. Je n'étais même pas dans le bon vestiaire, j'étais dans le deuxième vestiaire. Ils m'ont mis à côté de la toilette, ils ont mis mes vêtements là. Ils ont dit, on n'a pas de place dans l'autre, donc c'est là où tu t'habilles et tu te prépares pour l'entraînement. Et moi, en venant d'MLS, j'ai dit, ben, en MLS, je peux le dire, c'est vraiment parfait presque. Il y a tout pour toi. Ton casier est bien propre, il y a un mec qui vient, c'est confortable et tout. Et là, quand tu arrives là, jeune, dans ton deuxième fois en Europe, tu te dis, ben, qu'est-ce qui se passe ici? Et ouais, c'était très dur. C'était déjà, j'étais en Écosse, et en Écosse, c'est pas canadien. C'est pas, oh, t'inquiète, ça va aller. C'est vraiment, tu dois être prêt ou sinon, ciao. Donc ouais, cette première...
Difficile.
Ouais, c'est difficile.
Difficile, difficile ouais. Aussi d'être loin de sa famille. Combien d'années, tu me disais quand on préparait cette émission, tu es loin de ta famille, tu es loin de tes racines, de tes origines, de tout ça. C'est dur aussi.
Ouais, c'est le sacrifice en fait. Ça fait 11 ans que je ne suis pas avec ma famille. Et du coup, on revient à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est pour ça que j'ai fait le sacrifice. Parce que mon père, même quand j'étais jeune, il m'a dit, c'est une grande fierté pour lui. Si moi, je peux jouer pour le Canada sur cette stage. Donc, ces sacrifices-là que j'ai faits, c'est vraiment pour ça.
C'est puissant.
Ouais.
Ah, c'est puissant, non? Parce qu'il disait, il a été formé à Vancouver, mais par contre, tu viens de Ottawa. Là encore, c'est des distances, on ne peut pas s'imaginer en Suisse. Nous,
Il y a 3 heures entre les grandes villes. C'est pas. Moi, je suis parti à 20 ans de Yverdon à Thun. C'est 1h30. C'était dur pour moi. Donc, j'imagine pas pour Théo un âge encore plus précoce. Donc, effectivement, ça serait la meilleure façon de montrer tes qualités devant tout ton peuple et devant toute ta famille, j'imagine.
Exact, c'est exactement ça.
Et nous, on te suivra, évidemment, avec grand plaisir et une grande fierté aussi. On rappelle que tu es prêté au LS par Auxerre. Mm-hmm. Joe 1034 souhaite savoir quelle place le LS pourrait occuper en Ligue 1 actuellement.
Ah, ça, c'est des bonnes questions, ça.
C'est
des bonnes questions, j'aime bien ça, moi.
Tu sais...
Bon, Jérôme, tu peux jouer aussi.
Je vais jouer, mais je laisse répondre Théo.
Ouais, tu sais, celui-là, c'est très difficile à répondre parce qu'on a joué beaucoup de matchs. Donc, sans ces matchs-là, c'est là où je peux vraiment donner la réponse-là. C'est dur pour moi de donner cette réponse-là.
Moi, ils se battraient contre la relégation. Ligue à 18 en plus. Une Ligue à 20, c'est peut-être différent, mais quand on voit quand même le niveau de la Ligue 1 cette année, elle est très homogène, je trouve, et elle est meilleure que ce qu'on veut laisser penser aussi. Beaucoup de talent, chaque équipe a des joueurs individuellement, sur le plan offensif surtout, qui sont capables de faire mal, etc. Si tu m'avais posé la question, peut-être quand Lausanne avait éliminé Beşiktaş à l'époque et que tout se passait bien, oui. Je t'aurais dit, peut-être saison un peu plus tranquille. Là, actuellement, en Ligue 1, ça se battrait pour être maintenu.
Ouais.
Mais c'est des suppositions, oui, on ne le verra jamais.
Bien sûr. Exact. Bien sûr. Mais c'est des questions, j'aime bien toujours ce genre de petites questions-là. J'avais prévu de te poser cette question un peu plus tard dans l'émission, mais on met une monstre pression sur le chat, sur Instagram. Est-ce que tu vas rester à Lausanne la saison prochaine?
Et je te dis là, ça, ce n'est pas à moi de décider. Moi, je suis là pour jouer les matchs. Je suis très focus à jouer les 3 matchs qui restent. Évidemment, parce que, premièrement, je veux qu'on finisse le plus haut possible, mais aussi parce qu'il y a la Coupe du Monde à jouer. Donc, je suis focus sur ça. Et après que les 3 matchs sont finis, c'est là on peut voir.
Voilà les mecs, il a répondu. C'est bon, on y est. Tim te demande quel est ton match favori avec le LS depuis ton arrivée et pourquoi. J'ai ma petite idée, mais... Enfin, moi, j'ai ton match préféré, mais c'est toi qui dois répondre.
Ouais, IB, voilà. À la maison. pas seulement parce que j'ai mis triplé, mais aussi parce que mes parents étaient là. Et c'est eux qui ont fait tous les sacrifices pour moi quand j'étais jeune, pour me rendre à ce point-là. Là, tu me vois, j'étais en train de célébrer avec eux. Mais c'est vraiment un match que je vais tenir au cœur parce que c'est le meilleur match que j'ai fait actuellement. Et avoir mes parents là, c'est tout pour moi, en fait.
3 buts contre IB, 2 buts contre Bâle, 1 but contre Thun. Tu as marqué tous tes 6 buts en Super League à domicile, aucun à l'extérieur, pareil en Conference League. C'est quoi, tu te sens mieux à la lumière, c'est un hasard,
c'est synthé,
bah, je fais
synthé.
Mon job de journaliste, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait quand il joue à l'extérieur?
Je dors bien à la maison. Non, mais parfois c'est comme ça. Je sais pas, j'ai pas beaucoup joué en championnat grâce à cette blessure. Mais je suis bien à la maison.
Ouais, ça se tient, hein. ça se comprend comme genre d'explication.
Il fait du bruit, il y a le synthétique qui lui plaît apparemment, c'est bien.
Ouais. C'est ça, absolument. Il y a des gens qui souhaiteraient savoir quel est ton meilleur pote au LS ou dans le vestiaire, de qui tu es relativement proche.
Ah, je suis proche avec quelques-uns, ben, c'est un bon vestiaire, mais drôlement, Sigua qui est parti,
okay.
Il était mon partenaire de chambre quand on partait à l'extérieur. Et on était assez proches parce que lui, il ne parle pas beaucoup, en fait. Donc, il parlait beaucoup avec moi. Et on est devenus proches après ça.
J'ai une question marrante. Rien à voir avec le foot.
Okay.
Quelle est la place du sirop d'érable dans ta vie?
La place
du sirop d'érable dans ta vie.
Comme est-ce que je l'adore?
Ouais.
Oui.
Tu le mets dans ton top.
C'est top 5, c'est sûr.
Top
moi,
5.
Mais... Ma femme, elle aime plus. Ma famille a apporté 3 bouteilles, 2 litres, fini. C'est fini.
En une semaine.
Ouais,
je ne sais pas si c'est des gens qui te connaissent bien, mais on te demande voilà, justement combien t'en consommes.
Beaucoup.
Ouais.
J'aime mettre dans mon café. Je ne sais pas si tu regardes.
Oh,
Alain
ouais.
Aussi, il fait ça.
Ça m'intéresse.
Et tu le mets dans ton café, c'est très, très bien.
Mais un café, tu le bois long, le café? C'est un café américain
ça,
ou...
ça dépend, en fait. Ça dépend de moi.
Je vais essayer ça demain matin.
Ouais, il faut.
Donc, un café court avec le petit sirop d'érable au fond.
Oui, okay, mais petit, hein, pas trop.
Ouais, bien sûr. Non, mais j'aime bien ces cafés avec la,
Ouais, t'aimes bien tester ce genre de choses, toi.
Oui. Bah, j'adore le café, en vrai.
Ah, tu vas kiffer.
Oui. Allez, on revient au football, parce que samedi, ça s'est pas très, très bien passé à la Tuilière contre Lucerne. Encore une défaite contre l'équipe de Mario Frick. 4 matchs, un seul point pris, mais surtout 12 buts encaissés, dont 2, 4 à 0. Qu'est-ce qu'ils ont, ces matchs contre Lucerne? Pourquoi vous n'y arrivez pas?
En fait, même sur le bus avant le match, on parlait de ça, on disait... Parfois, il y a des équipes durant des saisons, et même, je pense, elles ont eu un peu de difficultés avec Lucerne l'année passée aussi. Parfois, il y a des équipes qui sont juste comme ça, qui te causent beaucoup de problèmes, même si tu fais toute bande durant la semaine. Parfois, c'est comme ça. J'ai vécu des matchs difficiles contre eux.
Jérém, ça t'est déjà arrivé dans ta carrière d'avoir... Ben, c'est même pas une bête noire, c'est non. Juste en fait cette saison,
ouais.
ça se passe comme ça et on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi il y a une telle différence.
Il n'y a pas toujours une explication rationnelle à ça. Hein. Ça peut être la forme d'un jour, le match d'après, peut-être qu'il y a un des joueurs adverses qui fait le match de sa vie. Là, on a vu un Vazovic qui a été très très bon. Nous, on avait ça, période LS 2016 à 2018, il y avait Guetze qu'on battait jamais, je ne sais pas pourquoi non plus. C'était pas le Guetze de cette année, ouais, mais ils avaient une belle équipe avec Caillot, Dabour, tout ça. Et je me rappelle, ils avaient Murat Yakin, d'ailleurs, qui est sélectionneur de l'équipe suisse, qui était aux manettes. Et on avait toujours, je crois qu'on les a jamais battus aussi en 2 ans. Et il n'y a pas forcément de raison à ça, si ce n'est parfois, bah voilà, la forme du moment, qualité individuelle adverse, un match qui est bien préparé par le staff adverse aussi. Et j'ai pas l'impression que dans l'esprit des joueurs, on se dit on joue contre notre bête noire et puis que ça influe dans les esprits. C'est juste des fois, il n'y a pas tout qui est explicable dans le foot.
Encore un but de Jamie Roche. Hier soir, moi, sur les dernières saisons, pour moi, c'est le joueur la plus-value, le joueur plus de cette équipe lausannoise.
Bah, je suis d'accord avec toi. Alors, ce n'est pas le seul. Par contre, c'est une des valeurs ajoutées de cet effectif-là. Il faut profiter de le voir au LS parce que ce n'est pas garanti. Alors, j'ai zéro info. Je ne suis pas dans les contrats ou quoi que ce soit. Mais c'est un joueur qui est amené à jouer plus haut dans un avenir proche ou à moyen terme parce qu'il a les qualités pour le faire. J'adore sa qualité technique à mi-terrain, bon gabarit, capable de marquer, de faire marquer, belle qualité de pied, capable aussi de beaucoup courir, de défendre à son poste, sans les blessures. C'est un des meilleurs en Super League, ça c'est clair.
Ton avis?
Ouais, il est très très fort, Jamie, et en plus il bosse très très dur, donc ouais, je pense qu'il va progresser encore dans sa carrière. Et ouais, c'est un joueur, comment on dit, on a besoin de lui, en fait. Mm-hmm.
C'est indispensable.
C'est simple, ouais, indispensable.
Ce serait le mot. C'est ouais. Ça. Il vous reste un match à jouer à domicile. Mm-hmm. Match particulier. Pourquoi? Parce que dans l'actu de cette semaine, évidemment, il y a le retour déjà de Peter Zeidler en Super League. Ce sera à Guetze. Il commence demain matin, 8h au bureau. Ça va être quand même assez particulier, ce match-là. Je pense que ça aurait été un match un peu... vite fait, comme ça.
Ouais, match de fin de saison, du remplissage, mais ça ne va pas être ça.
Par contre, là, du coup, ça ne va vraiment pas être ça.
Oui, parce qu'on connaît un petit peu les conditions de son départ. Il ne s'attendait pas à être remercié à ce moment-là de la saison. Si tôt dans la saison, entre guillemets, alors on approche de la fin de saison, mais il pensait bénéficier du crédit de ce qu'il avait fait en Coupe d'Europe cette saison. Je ne pense pas qu'il est parti avec un bon sentiment du LS en étant remercié. Et puis, Guetze a sauté sur l'occasion parce que les coachs, j'allais dire les coachs suisses, il n'est pas suisse, mais les coachs qui connaissent bien le championnat suisse, pour arriver dans la situation et le contexte de Guetze maintenant pour les sauver, il n'y en avait peut-être pas tant que ça sur le marché. Donc Guetze a sauté sur l'occasion et c'est vrai que ce retour à la Tuilière va être intéressant au niveau des émotions. Lui qui est très volubile, qui est très expressif sur le bord du terrain, je me demande un peu comment ça va se passer.
Mais oui, surtout quand on l'a vu déjà perdre un peu ses moyens contre Saint-Gall, c'est quelqu'un qui vit les matchs à fond et ça va être...
ça peut être chaud. Hein.
Ouais. Moi, en tout cas, quand je me souviens, la scène, c'est à la Tuilière, cette
ouais,
scène.
Ouais, c'est à la Tuilière, avec Gürtler.
Avec Gürtler, voilà. Ouais, c'était chaud, quoi.
Ouais, c'est chaud. Et puis, ça montre que même avec des anciens joueurs avec qui il a fait des belles choses, il n'est pas forcément toujours en odeur de sainteté. Ou alors, les émotions ont pris le pas, donc ça, c'est possible que ça se reproduise. Après... J'espère aussi qu'il aura suffisamment de recul pour se concentrer sur Guetze, qui en a bien besoin, plutôt que de se laisser peut-être submerger par ses émotions ce jour-là.
Autre actu lausannoise, la prolongation de Florent Mollet jusqu'en 2027, avec ce gros objectif, peut-être, il va enfin se mettre à courir.
Ah, t'es très dur là. Non, c'est dur quand même ce que tu dis, mais moi j'ai été très surpris. Alors apparemment, Steph Anchaud l'aime beaucoup, mais... Je trouve ça particulier de prolonger un joueur qui aura 35 ans cette saison, qui n'est pas toujours titulaire et qui joue quasiment au même poste que d'un des meilleurs joueurs de l'académie, à savoir Ethan Bruchet. Certains diront peut-être que les jeunes joueurs ne sont pas prêts, que les moins de 21 sont en position de relégable en Promotion League, mais je pense qu'individuellement, il faut savoir dissocier aussi. Ethan Bruchet a beaucoup de qualités. Il faut savoir faire la place à ses talents aussi, même lorsqu'ils sont en situation compliquée avec leur équipe, en l'occurrence les moins de 21. Et moi, que ces minutes à lui potentiellement soient mangées peut-être par un joueur qui aura 35 ans en novembre, d'un point de vue sportif, j'ai de la peine à le comprendre. Après, tout dépend aussi du prix auquel il a été prolongé en termes de contrat. Mais je ne suis pas aux manettes du LS.
Bon, en tout cas, c'est un joueur d'expérience. Hein. Il pèse 230 matchs de Ligue 1. Il a joué à Schalke. Enfin, il a une très, très grosse expérience. Il est comment au sein de ce LS, toi, qu'il côtoie tous les jours?
En fait, c'est ça que j'allais dire, qu'il apporte une expérience et un peu de calme au vestiaire. Hein. Il a joué, comme tu as dit, beaucoup de matchs. Et lui, je pense qu'il peut même montrer aux jeunes comment être dans le vestiaire, comment réagir à des trucs négatifs ou positifs aussi. Donc, il apporte beaucoup au vestiaire.
Ouais. Et avant de partir sur la petite pause, j'ai ma question. Ma question, c'est celle que j'avais préparée depuis le début. Est-ce que cette élimination en Conference League, elle vous a pesé? J'ai toujours pensé qu'il y avait la place pour passer. J'ai toujours trouvé que c'était un immense gâchis de vous faire éliminer par cette équipe-là, ce Sigma Olomouc. Est-ce que vous aussi, vous l'avez vécu comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a freiné ensuite dans un élan?
Oui, toute l'équipe était très, très déçue après parce que on dirait que c'était un cauchemar même, parce qu'on a dit que c'est une équipe qui peut jamais nous battre, même à la Tulière, c'est impossible. Mais en plus pour moi, je pouvais même pas jouer le match, donc ça aussi ça m'a détruit. Oh, un bruit. c'était très très dommage.
Ouais, c'est le direct, hein, c'est le direct, on est en direct. On est avec Théo Bert, joueur du Lausanne Sport, et avec Jérémy, on va passer à son image de la semaine. Et ça va se faire, évidemment, comme à chaque fois, avec l'art et la manière.
Ça a été une des informations de cette semaine, pardon, avec la nouvelle arrivée de Bruno Bernard dès la saison prochaine à Neuchâtel-Xamax. On sait qu'Anthony Breza n'a pas été reconduit par les dirigeants xamaxiens. Et honnêtement, j'ai été surpris en bien par ce choix. Je ne pensais pas que Xamax, vu son passé récent, ces trois dernières saisons où ils ont fini dernier, quatrième et huitième, je ne pensais pas qu'ils étaient capables d'attirer un entraîneur de ce calibre-là dans un club qui est quand même relativement morose sur les dernières saisons. Bruno Bernard, c'est un entraîneur qui a réussi à faire monter Kriens d'abord en Challenge League, qui a ensuite maintenu Winterthur, qui a fait du bon travail à Getse. Et je m'attendais à ce qu'il soit prédestiné peut-être à reprendre une équipe de Super League cet été. Dans une Ligue à 12, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour un coach de ce calibre-là. Et c'est un beau coup vraiment réalisé par les Xamaxiens, et ça augure de bonnes choses pour la saison prochaine, j'espère.
Oui, parce que c'est un coach de Super League, de 1, et j'ai l'impression que ça montre aussi effectivement que les ambitions vont être revues à la hausse.
Oui, en tout cas, ça en a l'air. Je dis pas qu'il n'y a pas d'ambition quand on a des coachs comme Xamax a eu les saisons passées. Par contre, là, c'est vrai que s'ils arrivent à attirer un Bruno Bernard qui a des références en Super League à l'échelon du dessus, pardon, il y a de quoi faire. Après, il faut que ça soit suivi en termes de recrutement et puis en termes de... à l'interne aussi, dans l'administration, dans les structures.
Ouais, l'émission est à peine un peu trop tôt, mais l'image de la semaine, ce sera le titre de l'Inter, nous dit Flavio, parce que oui, l'Inter peut être sacrée championne d'Italie aujourd'hui. Je vous propose de parler du FC Thun maintenant, le FC Thun relégué en Challenge League il y a 6 ans, promu en Super League il y a 1 an, champion suisse en 2025. C'est incontestablement le plus grand exploit de l'histoire de la Super League, mais est-ce que c'est le plus grand exploit de l'histoire du championnat suisse?
Alors, je ne vais pas parler au nom des quarantenaires, cinquantenaires ou soixantenaires qui ont peut-être vu d'autres générations de football, mais c'est vrai que depuis la création de la Super League en 2003-2004, il n'y a jamais un promu qui a été champion sur la saison où ils ont été promus. Donc forcément, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. C'est une histoire exceptionnelle avec des joueurs quand même labellisés, catégorisés peut-être de joueurs de deuxième division pour certains, avec quelques plus-values aussi, quelques touches apportées durant le mercato estival. Mais malgré tout, c'est une énorme surprise. Et C'est une très belle histoire, oui, mais moi je l'ai récemment dit et souvent dit sur ces antennes-là aussi. Ça montre, c'est pas un bon signal malgré tout pour notre football qu'un promu puisse être champion dès la première saison. Malgré tout, il faut relever le très bon travail fait par les dirigeants tounois et puis cet esprit de groupe aussi, ce collectif uni, parce que honnêtement, si je compare les effectifs, bien sûr, il y a 3 ou 4 joueurs qui sont sortis un petit peu du lot dans cet effectif tounois. Par contre, je suis pas convaincu que toute l'équipe ou presque serait titulaire à Bâle, à IB ou dans les grands clubs. Donc c'est peut-être aussi intéressant à relever pour les éducateurs qui nous écoutent et pour les jeunes joueurs aussi. Là, c'est vraiment le collectif qui a fait la force de ce FC Toun là et pas le talent individuel, même si certains joueurs, même ils ont tous un talent, mais il y a intrinsèquement des joueurs meilleurs dans d'autres clubs.
Ouais, c'est le club d'une ville de seulement 45 000 habitants. C'est le titre de qui ou de quoi?
C'est le titre de la stabilité, de la continuité, du calme aussi, parce que je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, lorsque Toun était en duel avec Sion pour être promu en Super League et que Lousrinelli était un petit peu discuté et critiqué, bah Andrés Gerber et puis Dominique Albrecht, le directeur sportif, ils ont gardé leur calme, ils sont restés sereins, ils sont restés tranquilles, ils ont toujours martelé dans les médias, dans la presse, que l'objectif, il était à long terme, que ça faisait pas partie des valeurs du FC Toun de réagir avec l'émotion, de réagir rapidement aussi. Et c'est le prix du travail bien fait avec calme et puis continuité.
Bon, tout le monde avait désigné Toun comme l'un des principaux relégués. Mais à raison.
Logique.
On peut pas imaginer un promu lutter, déjà, mais rien que pour le top 6, c'était quelque chose d'inimaginable.
Complètement.
Théo, toi, t'as marqué contre Toun, on l'a vu tout à l'heure, ce but sur penalty. Quand tu as joué contre cette équipe, tu as ressenti quoi sur le terrain?
Ouais, en fait, le truc qui me plaît à propos d'eux, c'est qu'ils jouent de la même manière tout le temps. Ils savent comment ils veulent jouer. Comme tu as dit, ils sont très, très calmes. Même quand ils ont pris rouge contre nous à la Tulière, c'était quand même un match difficile pour nous. On a gagné, mais c'était pas évident. C'était vraiment, on avait besoin de pousser. Et même à la fin, eux, ils l'ont poussé pour presque faire le 2-2. Donc, c'était vraiment impressionnant.
Et on sent sur le terrain ce que disait Jérémy, que c'est vraiment une équipe, un vrai gros collectif. On arrive à le ressentir, ça, quand on joue contre eux?
Oui, ils n'arrêtent pas de courir, en fait. Ouais. Ils défendent tous ensemble, ils attaquent tous ensemble. Et tu peux le voir à... Ils ont gagné le championnat, donc déjà, ça, c'est incroyable.
Mais tu vois, on avait reçu aussi Kevin Mwanga et on lui avait demandé à l'époque quels étaient les joueurs qu'il avait le plus impressionné cette saison en Super League. Il nous avait cité notamment Steven Zuber sur la première partie de saison à Zurich, ou bien l'année passée, je ne me rappelle plus exactement. Mais je ne suis pas convaincu que si on pose la même question à Théo, intuitivement, ça serait des joueurs de Toun qui sortiraient de sa bouche. Peut-être que je me trompe, mais... Je ne pense pas qu'intrinsèquement, c'est les meilleurs joueurs. Par contre, c'est de loin le meilleur collectif et ils l'ont prouvé et bravo à eux.
Ouais, c'est vrai. C'est difficile de sortir un joueur plus qu'un autre. Il y a quand même ces joueurs de ballon. Imery, par exemple, qui était venu. Il est venu ici. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois qu'on était en automne. Et là, déjà, il nous parlait d'un truc à aller chercher.
Bien sûr.
Et il ne nous parlait pas du titre, mais il disait il y a un truc... Dans cette équipe-là, dans ce collectif-là, on est comme une famille. Et on avait de la peine à le croire. On lui a demandé s'il était sérieux et ouais. En fait, à la fin, il va au bout.
C'est vrai qu'il était venu dans une période à l'automne où on s'était dit, voilà, il joue encore sur l'enthousiasme du promu, un petit peu la folie, les spectateurs à la maison, à la Stockhorn Arena qui poussent un petit peu. On s'était dit, bon, normalement, dans ces histoires-là, le promu, il finit toujours par caler au bout d'un moment, sauf qu'ils ont toujours maintenu leur rythme. Finalement, ils ont calé un petit peu sur cette fin de saison-là, mais à juste titre, parce qu'il y a la fatigue aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, bravo à eux. En tout cas, c'est une saison exceptionnelle. Et tu parlais d'Imery, qui fait partie des joueurs qui savent aussi magnifier et puis sublimer un collectif. Si on doit en sortir 2 ou 3, il y a Rastoder, il y a Imery, il y a Bertonnet, évidemment, qui sont tous des bons joueurs. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas prédestinés à faire partie des meilleurs joueurs du championnat si on en avait discuté cet été.
On nous dit sur le chat, l'homme fort de Toun, c'est l'entraîneur. Ah ouais. Alors j'avais évidemment envie de parler de Lousrinelli. Quand il arrive en 2022, il y a 2000 personnes à la Stockhorn Arena. Aujourd'hui, le stade est régulièrement plein. Il est passé nous voir il y a quelques semaines. Il nous disait, je veux que les gens viennent nous voir pour passer un bon moment. Et je crois qu'on peut dire qu'il a réussi ça. Oui, il fait le titre, mais il a mis de l'enthousiasme, de la joie, du plaisir chez ces gens. Est-ce qu'il a fait une seule erreur depuis un an et la montée de Toulon en Super League?
comment je pourrais dire qu'il a fait des erreurs, sachant qu'il a fait quelque chose d'historique et que personne n'a jamais fait dans l'histoire de la Super League. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de jouer avec lui en début de carrière, lorsqu'il était renard des surfaces, à Thun justement. Quelqu'un de très très bien et que je voyais déjà dans un rôle de coach parce qu'il a, il sent le foot, il est passionné de foot. Et c'est vrai que c'est lui, c'est l'homme providentiel de ce FC Thun. Et j'ajoute évidemment Andrés Gerber et Dominique Albrecht qui aiment bien être un petit peu plus dans l'ombre, mais qui ont fait un très très bon travail depuis beaucoup d'années.
Ouais, c'est... Évidemment, je ne vais pas te demander ton avis sur Mauro Lustrinelli, qui est un entraîneur d'une équipe rivale, mais quand vous jouez contre Thun, on sent aussi qu'il y a beaucoup de respect de sa part pour l'adversaire, pour les joueurs qui sont en face. Il nous le répète très souvent, d'ailleurs, aussi. Il a beaucoup de respect, et c'est très important, ça aussi.
Ouais, en fait, même quand il gagne les matchs et tout, tu ne le vois pas faire le fou ou quoi. Il est vraiment calme. Et même quand son équipe marque, il ne fait pas des trucs fous. Il est vraiment sympa comme entraîneur.
Ouais, il y a des histoires aussi assez exceptionnelles hein, dans ce titre. Maestri, par exemple, qui travaille encore sur des chantiers routiers hein, il y a quelques années. C'est-à-dire que tu passais avec ta bagnole, tu le vois sur un chantier et aujourd'hui, il est champion suisse. Pour moi, c'est aussi une des révélations de cette équipe-là.
Oui, bien sûr. Alors lui, c'est un des joueurs qui peut-être sera capable prochainement de faire le step même à l'étranger parce que l'âge le lui permet. Bertonnet, je suis pas convaincu. Bertonnet, il est déjà trentenaire et je crois au contraire qu'il va pouvoir surfer sur cette bonne saison, que ça soit à Thun ou bien en Suisse. Mais effectivement, vu le budget de ce club qui a toujours été limité, on sait qu'il y a 4 ou 5 ans, ils étaient au bord de la faillite. Ça a toujours été fait de façon raisonnable, les choix. On n'a jamais balancé de l'argent par les fenêtres. C'est toujours le cas, malgré le fait qu'il y ait un investisseur un petit peu plus costaud qui soit entré au capital. Et malgré ça, ils sont restés vraiment les pieds bien sur terre avec un coach qui sait d'où il vient, qui sait où il est. Il a été joueur, il a occupé différentes fonctions dans ce club-là. Donc, j'ai même pas l'impression qu'en étant maintenant champion suisse, ils vont se prendre pour des autres. Au contraire, je pense qu'ils vont être capables vraiment peut-être pas de capitaliser sur ce titre parce que faire un back-to-back dans ces conditions-là, on va pas le rêver non plus, mais ils sont capables vraiment maintenant, je pense, de construire quelque chose de bien et l'important, ça sera de stabiliser le club le plus longtemps possible en Super League parce que c'est un petit club à la base, Thun.
Mm-hmm. Alors, deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est évidemment la suite, c'est quoi ? Parce que là, maintenant, tu as les qualifs de Coupe d'Europe, tu as un petit calibre, tu risques de jouer tous les trois jours, Théo, tu sais ce que c'est.
Ouais.
Est-ce que tu as les reins assez solides pour faire ça, pour représenter la Suisse sur la scène européenne ?
Bon, d'abord, c'est de les laisser profiter et puis faire la fête bien comme il faut, parce que c'est exceptionnel. Mais c'est vrai qu'après, la saison, elle se prépare déjà maintenant. Ça va être important de stabiliser le club en Super League. Et je ne dis pas plus haut que ça, parce que c'est souvent le cas. On a vu alors c'est bien après, mais Leicester, par exemple, qui a été relégué en 3e division.
Je voulais t'en parler.
En 3e division il y a quelques jours, alors qu'en 2016, il faisait le titre.
10 ans après.
Donc, dans le cas de FC Thun, c'est pas se croire pour, pas se prendre pour un autre. Aborder le fait aussi qu'ils vont jouer tous les trois jours, donc avoir un effectif suffisamment fourni. Et le fait aussi de savoir gérer peut-être la charge physique, parce que comme Théo l'a dit, c'est dur d'enchaîner. Hein, et les attentes seront autres aussi sur ces joueurs-là.
Peut-être la différence qu'on peut faire entre Lausanne et Thun, c'est que Thun sait qu'il va faire ses qualifs. Tu sais juste pas si tu vas te qualifier. C'était inattendu que Lausanne se qualifie pour la Coupe d'Europe, surtout quand tu vois qu'à la fin, t'as Beşiktaş face à toi. Le fait de jouer tous les trois jours, est-ce que c'est quelque chose de positif, comme les joueurs de Servette nous le disaient? Nous, quand on jouait tous les trois jours, on était dans un rythme. Oui. Et quand ils se sont fait sortir de la Conference League, c'est là que tout s'est écroulé. Est-ce que pour vous, c'était la même chose ou est-ce que c'était vraiment dur de jouer tous les trois jours?
En fait, quand tu n'as pas cette expérience dans le vestiaire, il n'y avait aucun joueur qui a vécu ça. Donc, on ne savait pas comment gérer. Même l'entraîneur, il n'a jamais vécu ça. Donc, c'était dur à gérer à chaque trois jours. Mais on l'a fait, on a fait des grands matchs aussi en conférence. Et c'est amusant. Moi, j'ai adoré ça. J'adore le foot et je pense, je peux parler pour le vestiaire. Eux aussi, ils adorent le foot, donc c'est très bien. Mais par contre, c'est très, très dur de gérer le championnat après parce que tu t'excites pour des matchs qui sont tellement grands. Et pas pour dire que les matchs en championnat ne sont pas grands, mais
c'est
parfois,
retour au quotidien, quoi.
C'est exact. Et il n'y a pas toutes les équipes qui jouent l'Europe. Donc déjà, c'était dur.
Et ce manque d'expérience dont il parle, on va le retrouver à Thun.
C'est clair. Dans le cas de Lausanne, il y avait peut-être Olivier quand même avec Lugano qui avait fait une campagne, mais ça reste des épiphénomènes sur une carrière.
Letizia aussi.
Là, à Thun, il y a Bertonnet qui en a fait avec IB à l'époque. Il y a peut-être Burki qui a fait des bancs à l'époque aussi. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est inexpérimentée. Et dans le recrutement, ça va être dur parce qu'il va falloir aller chercher des joueurs qui sont capables d'amener un plus et en même temps qui ont cette expérience-là de la Coupe d'Europe. Et ça coûte. Hein. Et sachant que les finances de Thun sont ce qu'elles sont. Alors, il y aura une manne financière en tant que champion, en tant que participant en Coupe d'Europe, mais ils ne vont pas pouvoir, du jour au lendemain, faire x10 sur le budget et puis aller chercher des joueurs qui jouaient la Champions League cette saison.
Thun, champion, grâce à l'incompétence des grosses écuries de Super League, sans manquer de respect à Thun, nous dit Chris Lausanne.
Il y a un peu de vrai. Hein. Moi, je rejoins Chris Lausanne sur ça. Ça rejoint un peu sur ce que j'ai dit au début d'émission, c'est que c'est pas un bon signal pour notre championnat que le promu soit champion après sa première saison. Et c'est un petit peu, il faut jeter la pierre au grand de ce championnat qui aurait dû faire mieux, ça c'est clair.
Allez, on va écouter Ibai et Imeri après cet exploit et on en parle juste après.
Plus les jours avançaient, plus on y pensait. Comme je leur ai dit, ce titre on l'a fait pour eux parce que voilà, tout au long de la saison, ils ont été là pour nous, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Voilà, on sait que ces derniers temps, ça a été un peu plus compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, on est champion et on savoure pleinement la chose. Parce que voilà, on a fait une saison énorme jusqu'à là. Et je pense qu'aujourd'hui, on mérite. Sur la régularité de la saison, on mérite ce titre. Je pense que personne ne se rend vraiment compte sur le moment. Mais petit à petit, ça monte. On voit les émotions. Je pensais pas, à mon âge aujourd'hui, vivre une émotion sur un match devant la télé comme ça.
C'est complètement fou, gagner ce titre avec le club. Après tous les efforts qu'on a fait, aujourd'hui on est récompensé. Ouais, oui, j'ai beaucoup d'émotions, je suis désolé, mais voilà. L'équipe est présente, l'équipe est prête. Et je pense que c'est exceptionnel. Émotionnellement, c'est beaucoup. J'ai vécu deux dernières années un peu compliquées avec mes blessures et tout ça. Et là, voilà, je viens dans ce club qui m'a accueilli super bien et voilà, aujourd'hui, on gagne le titre.
Blessure.
Wesh, la revanche du cas qui a été souvent blessé, il l'a dit lui-même, c'est une jolie histoire, ça aussi. Moi, j'aime ce genre d'histoire dans le foot, dans la Super League. On a même une question ici, est-ce qu'il devrait retourner à IB pour autant qu'il reste en Suisse? Évidemment. Tu vas juste donner ton avis. Mais là, maintenant, en fait, c'était un joueur dont on ne voulait plus à Berne. Il va à Thun. Il revient avec un statut de champion à Thun. Qu'est-ce qu'il doit faire?
En tout cas, il s'est fait sa meilleure publicité pour être de nouveau très, très bien dans son club d'origine qui est IB. Je pense que forcément, il aura son mot à dire, mais son club d'origine aura aussi son mot à dire puisqu'il est encore sous contrat à IB. Je vais pas parler pour lui, je vais pas parler pour IB. Par contre, c'est vrai que c'est une aubaine pour IB de récupérer un joueur comme ça qui est en pleine confiance, qui a surmonté cette blessure, qui est une grosse blessure, hein, les ligaments croisés. Ouais. Donc c'est tout bénef pour IB, pour lui. En tout cas, il aura l'embarras du choix, entre guillemets, parce qu'il a vraiment réalisé une très, très belle saison. Et je suis surpris de la greffe Imeri et Thun, parce que c'est quand même un step. Il est redescendu quand même de très, très haut. Hein. Il était en équipe de Suisse, il était à IB. On parlait de lui comme le futur numéro 10 de l'équipe nationale à une période. Aller jouer à Thun chez le promu, dans le petit Thun entre guillemets, ça montre aussi son humilité. Il a fait vraiment du très très bon boulot.
Ouais, cette humilité, on y revient. J'en parlais en mentionnant Lou Srinelli. L'humilité dans le foot, c'est quand même quelque chose de très important.
Oui, si t'as pas ça, tu peux tomber de très loin.
À part
loin.
Si tu t'appelles Zlatan Ibrahimovic. Voilà.
Ça, c'est une force. Voilà.
Là. Ouais, mais exactement ça. Tu peux soit avoir l'humilité et rester plat tout le temps, où tu vas faire ça tout le temps. Et ça, je trouve que c'est pas bien. Tu peux pas être trop haut, tu peux pas être trop bas. Faut garder l'humilité pour rester tout droit.
Allez, on va parler un petit peu du FC Sion maintenant, parce que vous nous avez demandé ça dans le chat. Et forcément, oui, on a parlé de Lausanne avant de parler de Sion, puisque l'invité qu'on reçoit, c'est un joueur du Lausanne Sport, comme on le fait chaque dimanche. Alors, on va parler de Sion, qui a encore une fois, aujourd'hui, déjà battu Saint-Gall au Kibun Park après avoir battu Bâle à Bâle. Cette équipe, elle ne s'arrête plus, elle est presque devenue injouable. Et là aussi, on parlait de Thun en parlant d'un collectif, mais là, c'est vraiment pareil, exactement pareil.
Qu'est-ce que c'est fort. Moi, je suis franchement impressionné par ce groupe, par cette qualité aussi. Ils ont aussi des individualités qui font des diffs, mais Mais être capable d'aller gagner à Saint-Gall à ce moment-là de la saison où ça joue les Coupes d'Europe et puis d'aller bien gagner à Saint-Gall, hein, pas en mettant des buts de raccro, en étant un petit peu 50-50 jusqu'à la fin du match. Non, là, en étant vraiment dominant et puis en étant bon, en faisant un clean sheet. Moi, franchement,
un autre
clean sheet une fois de plus. Pour moi, grand respect pour cette équipe, grand respect pour ce club aussi, parce que ce qu'ils font, je l'ai dit à maintes reprises, depuis qu'ils sont remontés ou même depuis qu'ils sont descendus plutôt. Humilité, travail, recrutement un petit peu moins bling-bling, reconduction de Didier Tolo. Moi, je trouve ça très, très bien, pourvu que ça dure pour eux.
14 clean sheets, invaincus depuis 7 matchs. Ils ont quand même tapé une équipe qui avait plus perdu depuis une belle petite éternité aussi. Avec, justement... La manière, en fait. On est sur une équipe qui, maintenant, se connaît les yeux fermés. Et je crois que, par moments, cette saison, on vous a vu jouer aussi de cette façon à Lausanne. Ça a un petit peu disparu depuis quelques temps. Mais quand on voit une équipe jouer comme ça, une équipe qui se connaît parfaitement, c'est beau. C'est beau à voir.
Oui, je suis d'accord. Et je trouve qu'être une équipe qui a été ensemble, il y a plusieurs joueurs qui ont été ensemble pendant quoi, deux saisons à peu près. Ouais. Et je trouve que ça, c'est très important pour avoir ces automatismes sur le terrain.
Cette équipe qui était déjà là en Challenge League, beaucoup de joueurs qui étaient déjà là en Challenge League, soit qui sont restés, soit qui ont accepté ce pari. Et là aussi, oui, on a parlé de Toon qui est champion, mais moi, je vois ça aujourd'hui, je me dis, il y a un jour où on parlera de ce champion aussi.
En tout cas, il pose des très, très bonnes bases pour la suite, parce qu'on dit souvent la deuxième saison après une promotion, c'est la plus dure. La première, on peut toujours mettre un petit peu l'excuse sur l'euphorie, ça s'est bien passé, là, certains joueurs découvrent la Super League. Là, d'être capable de confirmer leur très très bonne première saison en Super League après la montée de cette façon-là et puis en étant à la lutte pour les places européennes, c'est encore plus fort et vraiment, comme j'ai dit, des bonnes bases posées et selon les recrutements qui seront faits cet été, il y a de quoi vraiment sublimer cette équipe parce qu'il y a vraiment une très très belle ossature, un beau noyau.
Ouais, allez, on a hâte évidemment de découvrir ce que nous concocterons les dirigeants du FC Sion pour le prochain Mercato. En attendant, je vous propose le débrief de cette rencontre avec Giacomo et Luke Mbila.
On est avec Josias Lukembila à la fin de ce match entre Saint-Gall et Sion, victoire 3-0. Josias Lukembila qui tient encore debout après tous les efforts à haute intensité de cet après-midi. Quel match, sincèrement, encore du FC Sion?
Oui, franchement, je pense qu'en première mi-temps, ça a été un peu difficile pour nous de trouver vraiment cette faille parce que au niveau du duel, ils étaient plus forts que nous et on l'a vu. Et petit à petit, en fait, avec la chaleur, je pense, et au fur et à mesure du jeu, bah, on a réussi à inverser la tendance.
C'est où que vous avez su hausser le curseur cet après-midi? Parce que vous parlez de la chaleur, au début c'était compliqué, mais c'est où qu'après que Sion a fait la diff par rapport à Toon?
Je pense que c'est en revenant de la deuxième mi-temps. Bon, après le but nous fait du bien, mais en revenant de la deuxième mi-temps, on s'est dit vraiment qu'il fallait plus bouger, plus garder le ballon et essayer vraiment de les faire courir le plus possible, quoi.
J'ai dit par rapport à Toon, c'était un lapsus parce que je pensais à Toon, du coup que vous rendez champion cet après-midi avec vos docteurs. Vous leur avez fait un bon service, hein, monsieur.
Oui, bah en vrai, c'est un cadeau qu'on leur a fait. Franchement, là, je pense qu'ils doivent le fêter, ils doivent faire quelque chose. Donc, en vrai, c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont fait cette saison. Là, ils sont champions aujourd'hui. On fait partie, on va dire.
Ouais, vous avez participé à la fin, mais voilà. Parlons quand même de cette période du FC Sion. C'est assez incroyable, vous ne prenez pas de but depuis 5 matchs. On a l'impression qu'il ne peut rien vous arriver. Vous êtes tous les joueurs à votre meilleur niveau. Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? C'est où que vous avez passé un step?
Je pense que... on a passé un step, je pense que c'est dur à dire. Mais autant le staff qui nous maintient vraiment dans ce truc-là et autant le groupe qui est vraiment fantastique. Au final, je pense que ça fait une union ou ça fait quelque chose qui aujourd'hui se voit sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est notre force, je pense, c'est être ensemble. On voit que tout le monde peut marquer, tout le monde marque, tout le monde peut faire des assises, tout le monde peut courir. Donc vraiment, je pense que c'est ça la force du groupe.
Il n'y a plus qu'à aller chercher l'Europe.
C'est ça, on va aller chercher. Espérons-le, après on verra par la suite. Mais en tout cas, là, on est bien parti et on va aller le plus haut possible.
Merci beaucoup, Josias Lukembila. Reste 3 matchs au FC Sion. Le prochain, on l'a dit, face au nouveau champion, face au FC Toon.
Et j'aimerais beaucoup vous entendre au sujet d'une question ou plutôt d'une affirmation qui arrive sur le chat. Sion a juste un an de retard sur Lausanne. Ils suivent exactement le même cheminement que Lausanne. Ils ont été en Challenge League, ils se sont maintenus, ils ont fait top 6, ils veulent peut-être aller en Coupe d'Europe. Est-ce que tu partages ça ou est-ce que tu vois des différences quand même?
Non, c'est vrai. Alors, il y a quand même eu un recrutement très différent à Lausanne, qui est beaucoup plus éclectique, qui vient avec des joueurs qui viennent d'un peu partout, un effectif un peu plus international. Sion, ça s'est plus basé quand même sur des joueurs suisses qui connaissent le championnat, qui ont à cœur de prouver qu'ils sont capables non pas de jouer en Challenge League, mais aussi en Super League. Par contre, c'est vrai qu'en termes de classement, en termes d'objectifs chaque saison, c'est vrai que ça... Si on suit un petit peu ce que le LS a fait.
Grégory Gouma nous dit « Mourad, si tu nous écoutes, prends Rachopi au Mondial. » On en a discuté la semaine dernière, évidemment. Actuellement, meilleur que Keller, mais Keller, c'est celui qui est allé à tous les derniers rassemblements et qui fera probablement le groupe. Il y a Krishnik Arizi aussi qui a été très très bon à l'interview cet après-midi. Ouais, mais qu'est-ce que j'aime ce groupe. Mais qu'est-ce qu'on est fort quand on est ensemble. Et il déclare vraiment son amour pour ses coéquipiers, pour cette équipe. Et moi, j'ai adoré cette interview.
Bah, ça fait plaisir à voir. Et c'est une preuve de plus aussi que c'est beaucoup le collectif, l'esprit qui fait la différence à Sion cette saison. Et Krishnik, il est comme sur le terrain. Il
ne calcule
pas, il est authentique, il est spontané. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir à l'interview.
Bon, on va terminer cette émission de manière un petit peu différente.
Ah, j'ai peur de ce que tu nous prépares.
J'ai une petite question à vous poser. Ça n'a rien à voir avec la présence de Théo. J'ai vu un truc vendredi qui m'a beaucoup plu. Donc, je vous montre. C'est donc dans un stade. C'est au moment où Leeds a joué contre Burnley. Et les supporters de Leeds, donc où joue Noah Okafor, entendent une chanson dans le stade. Je vous laisse écouter la chanson qui chante et vous me dites pourquoi. C'est Michael Jackson, Smooth Criminal. Théo, tu sais pourquoi?
J'essaie de penser.
Tu peux dire non?
C'était Leeds Burnley.
Le coach de Burnley s'appelle Michael Jackson.
Oui,
et donc, ils ont eu envie de les chambrer comme ça pour fêter cette nouvelle défaite de Burnley.
J'ai vu l'info, mais j'ai pas fait le lien.
Et donc, on se quitte aussi avec Smooth Criminal pour une fois au lieu du tapis musical habituel. Merci mille fois, Théo, d'être venu. Bonne fin de saison à toi, OLS. On croise les doigts pour la Coupe du Monde. Évidemment, on te suivra avec grande fierté. Jérém, merci. Comme
merci
d'hab, au top. Merci à vous aussi. La semaine prochaine, c'est Jocelyn Gourvennec qui passe nous voir. Et grosse info cette semaine, évidemment. La Champions League reste sur Blue Sport jusqu'en 2031. Belle semaine à toutes et à tous. Ciao.